Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 26 septembre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Des millions d'Iraniens dans la rue, l'échec du scénario de déstabilisation, la Syrie déterminée à faire face à la normalisation avec Israël et le renforcement de relations entre l'Afrique du Sud et la Syrie, c'étaient les principaux titres. En voici le journal. Des foules immenses de personnes sont descendues dimanche 25 septembre dans les rues de la capitale iranienne Téhéran pour dénoncer les actes de vandalisme et de profanation des saintetés islamiques par des émeutiers au cours de la semaine dernière à la suite de la mort d'une jeune Iranienne après avoir été emmenée dans un poste police. Les manifestants portaient des pancartes et scandaient des slogans pour condamner fermement les actes pervers commis par une poignée de mercenaires au service d'ennemis étrangers qui ont mis le feu au Saint-Coran, aux mosquées et aux drapeaux nationaux et ont enlevé de force les foulards des femmes dans les rues. Les manifestants à Téhéran portaient des drapeaux nationaux et des pancartes, scandant des slogans contre les émeutiers soutenus par l'étranger, les États-Unis et Israël, ainsi que le groupe terroriste des Monafarines, MKO. Ils ont également annoncé leur soutien indéfectible aux forces de police et les mesures qu'ils ont prises pour rétablir le calme dans tout le pays après des jours de violentes émeutes. Ils ont offert des fleurs aux policiers le long du chemin de la manifestation. Le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Bahodiri Jahromi, faisait partie des responsables présents au rassemblement à Téhéran. Les manifestants ont également organisé un cortège funèbre pour un membre de la force Basij qui a été tué en martyr par des émeutiers à Téhéran alors qu'il tentait de rétablir la sécurité dans la capitale. Les manifestants ont finalement publié une déclaration appelant tous les responsables concernés à prendre les mesures nécessaires pour identifier et punir les émeutiers qui ont insulté le caractère sacré des personnes et endommagé les biens publics. Ils ont également demandé la punition de tous ceux qui ont diffusé de fausses informations et rumeurs sur diverses plateformes de médias sociaux dans le but d'alimenter le feu des émeutes. L'attaque du dimanche matin 25 septembre des forces armées sionistes contre des zones de Cisjordanie a conduit à des affrontements avec des combattants palestiniens. 4 Palestiniens ont été arrêtés. À Naplouse, les affrontements se poursuivent. Les médias palestiniens ont rapporté qu'un jeune Palestinien a été tué en martyr dans le pilonnage de sa voiture à Naplouse. Les autorités du régime sioniste ont décrété l'état d'alerte dans les territoires occupés jusque 18 décembre. Les forces d'occupation de Rots empêchent les Palestiniens d'entrer dans la mosquée Al-Aqsa depuis ce dimanche matin. Un dispositif de sécurité draconien a été déployé autour de la mosquée Al-Aqsa. Une forte concentration des forces sionistes se trouve à l'entrée Bab al-Rahma. Par ailleurs, au moins 250 colons sionistes, épaulés par les militaires, ont fait irruption dans la mosquée Al-Aqsa et ont profané le lieu saint en faisant des gestes religieux et en chantant. Selon une autre dépêche, en provenance des territoires occupés, lors de l'opération antisioniste d'un Palestinien dans la ville de Rabat Gilad, près de Ramallah, deux policiers israéliens ont été blessés. Dimanche après-midi, ce chauffeur palestinien a foncé en voiture vers une voiture de police. Par la suite, il a été tué en martyr par les forces d'occupation. Certaines sources médiatiques en Palestine occupée ont également fait état de l'explosion d'une voiture dans la ville d'Acre. Un homme de 30 ans a été blessé. Les médias du régime sioniste ont fait par ailleurs état d'un incendie au marché de Carmel à Tel Aviv. De nombreux dégâts ont été causés. La conseillère spéciale du président syrien, Busayna Shaban, a affirmé que le peuple syrien considère la Palestine comme sa principale cause et que les pratiques menées par l'occupation israélienne visent à abolir complètement la présence arabe. Recevant une délégation du Front populaire de libération de la Palestine, Mme Shaban a souligné que la stratégie de l'Occident et de l'ennemi israélien vise à répandre la normalisation au niveau populaire. Elle a fait noter que l'occupation israélienne est une étape pour dominer la richesse de la nation arabe, faisant état de l'importance de prendre des positions claires et de soutien pour le peuple palestinien afin de l'aider à faire face au terrorisme sioniste. La responsable syrienne a clairement indiqué que le ciblage de la Syrie et ses institutions en 2011 visait principalement à mettre fin au rôle national arabe et à sa position de soutien pour la cause palestinienne. Ce à quoi les pays occidentaux et l'entité sioniste avaient échoué dans la planification, le financement et la gestion de la guerre terroriste contre la Syrie. La conseillère spéciale du président syrien a précisé que la fermeté de la Syrie a joué un rôle majeur dans les engagements mondiaux et majeurs, soulignant que la Syrie est toujours prête à soutenir la lutte du peuple palestinien à tous les niveaux. Pour sa part, le secrétaire général adjoint du Front populaire de libération de la Palestine a affirmé que la Syrie a joué un grand rôle historique dans le soutien au peuple palestinien dans tous les domaines, soulignant que faire face à la normalisation est une responsabilité arabe commune. Deux jeunes hommes sont tombés en martyr à la suite de l'explosion d'un engin explosif abandonné par des réseaux terroristes à proximité du village d'Al-Rahjan dans la banlieue est de Hama. Une source du commandement de la police du gouvernorat a fait savoir au correspondant de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, qu'un engin explosif abandonné par les terroristes avait explosé sous une moto transportant deux jeunes hommes à proximité du village d'Al-Rahjan, au nord de la ville de Salamiya, dans la banlieue de Hama. Le gouvernement syrien a finalement rompu son silence sur l'appel à une réconciliation avec Ankara, annonçant qu'il n'aurait aucun plan de normalisation des relations avec la Turquie. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mirdad, a démenti dimanche l'existence de toute négociation avec la Turquie. Des signes d'un rapprochement turco-syrien sont apparus récemment, bien que son ampleur ne soit pas encore connue suite aux déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a confirmé l'existence d'une coopération en matière de renseignement avec le gouvernement syrien. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de contact, il n'y a rien, du moins au niveau des ministres des Affaires étrangères, a déclaré M. Mirdad dans un communiqué. Déclarant que l'engagement à mettre en œuvre les dispositions des accords d'Astana est le seul cadre viable pour résoudre la crise syrienne, M. Mirdad a décrit le non-engagement de la Turquie dans cette affaire comme un obstacle au règlement des affaires. Ankara espère que Damas serait encouragé à établir des relations économiques avec la Turquie afin que les deux parties concluent des transactions directes basées sur des intérêts économiques. Le gouverneur de Damas, Mohammad Talir Khishati, a examiné avec l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud, Paris-Philippe Kilder, les moyens d'améliorer et de développer les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment les services, l'économie et l'investissement. M. Khishati a fait état des relations historiques dans les deux pays et de l'importance de démontrer la réalité de la situation en Syrie à l'opinion publique sud-africaine, soulignant la volonté du gouvernorat de coopérer et de fournir toutes les facilités aux entreprises sud-africaines souhaitant participer dans la reconstruction et l'investissement. Le responsable syrien a apprécié les positions pro-syriennes de l'Afrique du Sud pendant les années de la guerre terroriste et ses efforts pour soutenir la position de la Syrie dans les forums internationaux. À son tour, le responsable sud-africain a affirmé la volonté de son pays de participer à la phase de reconstruction et de développement urbain à Damas et d'activités de faire progresser la coopération en matière d'investissement. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël sous le siège naval. Les nouvelles dimensions de la puissance militaire de l'axe de résistance et la dernière équation du Hezbollah libanais ont amené le régime sioniste à prendre plus au sérieux les défis et les dangers maritimes auxquels il est confronté. Le Liban et l'entité sioniste sont en dispute sur une zone marine riche en pétrole et en gaz en Méditerranée d'une superficie de 860 km². Les États-Unis supervisent des négociations indirectes entre eux pour régler le différend et délimiter la frontière. Selon le président libanais Michel Aoun, les négociations pour délimiter la frontière maritime avec Israël sont dans leur phase finale, alors que Tel Aviv menace d'exploiter la plateforme Karish avec ou sans accord. Ceci dit, les cartes d'Israël sont brouillées et son armée de l'air a perdu sa supériorité. Elle a essuyé de nombreux échecs face à l'axe de résistance. Sa force navale reste sa seule chance pour faire face aux menaces de la résistance. Par conséquent, les défis maritimes d'Israël sont aussi importants que les crises internes. En avril 2021, un navire appartenant à une société israélienne a été la cible d'une attaque près des côtes des Émirats arabes unis au large de l'Iran, au moment où Téhéran et Tel Aviv semblaient engagés dans une nouvelle escalade sur mer. Deux mois plus tard, le Mercer Street, un navire opéré par la société Zodiac Maritime, détenu par un milliardaire israélien, a été attaqué en mer d'Oman. De l'avis des chercheurs, la pensée stratégique israélienne est confrontée à la nouvelle donne au Moyen-Orient. Le pouvoir israélien est donc passé d'une situation où le Hezbollah, le Hamas et l'Iran représentaient les seules menaces potentielles à une nouvelle donne où des menaces peuvent surgir de partout. Pour l'instant, ce sont les menaces émanant de son environnement immédiat, territoire palestinien, plateau du Golan, péninsule du Sinaï, voisin arabe, qui occupent l'attention des stratèges israéliens. L'institution militaire israélienne se doit de penser la guerre tous azimuts et de se préparer à toute forme d'affrontement. Le Centre de recherche sur la stratégie maritime de l'Université de Haïfa a fait paraître un rapport intitulé « Rapport stratégique maritime » dans lequel il s'est penché sur le blocus naval imposé contre Israël par l'axe de résistance. Le blocus plongera Israël dans une crise qu'il ne peut pas gérer. Et si un conflit régional éclate, la guerre en mer aura des conséquences désastreuses pour Israël. Parce qu'Israël est entouré des menaces en provenance de cinq directions, à savoir l'Iran, la Syrie, le Liban, le Yémen et la bande de Gaza. Quant à savoir si le régime sioniste subit un blocus maritime de la part de l'axe de résistance et quelles seront ses mesures de sauvetage, c'est en observant de près la feuille de route et les lignes maritimes utilisées par les navires commerciaux israéliens que nous découvrons que toutes ces lignes sont dans la ligne de feu des ennemis du régime. L'axe de résistance, avec un contrôle total sur le golfe Persique et la mer d'Oman, peut facilement surveiller la circulation des navires israéliens. Par ailleurs, ses missiles et ses drones lui donnent la capacité de viser les positions et l'équipement naval israélien à tout moment. Les pays de la région, membres de l'axe, dont l'Iran, la Syrie et le Liban, sont suffisamment équipés pour perturber le commerce maritime d'Israël ou menacer ses côtes et ses positions navales. En conséquence, le régime sioniste est extrêmement préoccupé par le transport maritime et le déchargement des navires dans le port de Haïfa, considéré comme le plus développé et le plus sécurisé de l'entité, notamment du fait de la présence de la flotte américaine qui y stationne. Avec une gestion de près de 30 millions de tonnes de frais annuels, le port commercial flanqué au sud de la baie est le premier avant Ashdod ou Eilat. Mais les groupes de résistance au Yémen et dans la bande de Gaza peuvent à tout moment entraver ce trafic maritime. Le Yémen a une position maritime stratégique très importante avec 2500 km de frontières surplombant la mer d'Oman et la mer Rouge de l'Ouest. De plus, le détroit de Bab el-Mandeb, qui est le goulot d'étranglement d'entrée et de sortie de la mer Rouge, donne au Yémen une position maritime particulière. Les forces armées affiliées au gouvernement de Sanaa ont réussi à cibler un grand nombre de navires de guerre de la coalition saoudo-émiratie depuis les 8 années de guerre destructrice au Yémen. Elles sont donc capables de cibler des navires israéliens si nécessaire. En ce qui concerne la bande de Gaza, les groupes de résistance palestiniens sont aussi en mesure de paralyser n'importe quel point des ports d'Israël. En fin de compte, face à l'axe de la résistance dont la puissance maritime se révèle de jour en jour, le régime sioniste se voit encerclé au sol mais aussi en mer.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. En effet, lors de ses derniers discours, le dernier datant de la journée d'Arbaïn la semaine dernière, le secrétaire général du Hezbollah libanais a évoqué la frontière, la région frontalière de Karish, cette région disputée entre le Liban et le régime sioniste. Dans tous ses discours, le secrétaire général du Hezbollah libanais insistait sur le fait que le Liban était insistante sur cette zone et que si le régime sioniste continuait, poursuivait ses actes de déstabilisation et d'ingérence dans cette région, le Hezbollah libanais ne resterait pas les bras croisés et réagirait face à ces tentatives de déstabilisation et d'ingérence. D'un autre côté, et lors de l'Assemblée générale des Nations unies, la 77e Assemblée générale des Nations unies, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré son homologue libanais et a fait état, de la préparation d'Iran de livrer du pétrole au Liban dans cette conjoncture actuelle. Alors nous allons évoquer ce sujet avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le mercredi 20 septembre, à peine quelques heures après que les médias sionistes se sont mis à évoquer des concessions faites par Israël au Liban afin que l'exploitation du gisement gazier Karish puisse se faire sans que l'entité ait à subir une punition balistique du Hezbollah, les agences israéliennes ont parlé de long en large d'un test de missile antinavire sioniste qui aurait été effectué avec succès en Méditerranée orientale. En effet, il y aurait trop d'allusions à Hezbollah et à l'Iran dans ce geste sioniste pour que l'observateur averti ne s'en aperçoive pas. Il y a d'abord et avant tout cette colossale marche arrière face à la résistance libanaise que le gourou Netanyahou a décrit à juste comme étant la trouille noire de Nasrallah qui s'est emparée de l'APID et qui a fait que l'entité a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, à savoir jusqu'à ce que le Hezbollah soit satisfait des propositions US-Israël mises sur la table, les travaux de forage à Karish et y faire l'opération plateforme morte, même si elle ne cessait jusqu'ici de crier sur les toits que Karish se trouvait dans sa zone économique. Car que l'entité accepte l'ouverture d'un corridor naval Iran-Hezbollah, cela revient à remettre littéralement en cause sa propre campagne de guerre, dont la guerre contre la Syrie, où elle tente depuis 10 ans et sans succès, d'ailleurs, de couper la voie de transit terrestre des armements iraniens au Hezbollah. Ne serait-il pas désormais une totale perte d'argent et de force qu'offert décoller les F-16 de les envoyer à leur risque, et péril, mais aussi au risque et péril, des forces américaines en station Syrie frappées Alep, Damas, Hama. Bien sûr qu'aussi, ou autrement dit, un corridor maritime Iran-Hezbollah, cela fera de la campagne de guerre dans la guerre israélienne contre la Syrie le meilleur allié de la résistance qui s'en servira comme prétexte pour attaquer les Yankees. Mais l'absurdité du test à Gabriel 7, missile conjoint Israël-Chad-Iran, qui ne devrait pas, sauf avoir aucun énigme pour les Iraniens, le Hezbollah, n'en reste pas là, car les sources bien informées font état d'une rencontre d'un tête-à-tête Assad Nasrallah. Qui a donné lieu à quoi? Le Hezbollah libanais déployé en Syrie depuis 2013 ne se retirera pas, mais fortifiera les emplacements de la force de missiles de l'organisation se trouvant en territoire syrien. La Syrie fait partie de l'axe de la résistance, de sorte que, s'il le faut, elle sera incluse dans le théâtre des opérations militaires en cas de guerre israélienne contre le Liban, sacré coup que celui de Karesh.
Voilà, de retour sur le plateau du débat. Nous allons tout de suite commencer avec notre première invitée depuis Beyrouth, Rada Oubala, docteur Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban. Je vous dis bonjour, Madame Oubala, et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Alors, dans un premier temps, comment interprétez-vous la situation actuelle en ce qui concerne la région, la zone contestée de Karish et les mises en garde du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, quant à des tirs de missiles si jamais Israël continue ses menaces contre ces régions?
Bon, d'abord, dans cette lecture, il faut souligner deux points. C'est-à-dire qu'il faut mettre en exergue la position du Hezbollah officielle, qu'elle soit exprimée par le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, mais aussi, bien entendu, la réaction ou la position de la partie adverse, à savoir l'entité sioniste, que ce soit à travers les médias israéliens ou bien à travers des responsables militaires israéliens. Alors, pour commencer par Saïd Hassan Nasrallah, je rappelle que dans son discours qui a été prononcé lors de la cérémonie des Arba'in de l'imam Hussein alayhi salam, Saïd Hassan Nasrallah a bien souligné que nos yeux et nos missiles sont braqués sur le champ contesté de Karish. Mais il a ajouté quelque chose de très important, à savoir que d'abord, l'extraction du pétrole et du gaz de Karish est une ligne en termes de relations, quand on parle de ligne. C'est-à-dire que si cette ligne rouge, toute action modifiée, premièrement, deuxièmement, très claire, à la finule, dans son intérêt d'agir. Et pour la finule de rester et de ne pas intervenir si militaire de la part du Hezbollah défendre les droits du pétrole et son gaz de Karish. La deuxième chose, c'est Cheikh Qassem, qui est général adjoint du Hezbollah, que le Liban négocie aujourd'hui en cause. Donc, qu'il est prêt concernant ses droits pétroliers, l'ennemi israélien. Une confirmation qu'il est que le Hezbollah. Pour céder un millième de ses droits au niveau du gaz et du pétrole. Revenons maintenant à la partie adverse, c'est-à-dire les médias israéliens, voire aussi les responsables israéliens. Pour les médias israéliens, le 23 septembre, ils ont déclaré que nous négocions avec le Liban sous la menace. Nasrallah a mis un pistolet sur la tête d'Israël. C'est une expression très forte.
Oui.
Cela signifie que les médias israéliens prennent très au sérieux les menaces du secrétaire général du Hezbollah. Et c'est là C'est l'ancien ambassadeur israélien aux Nations Unies, Danny Danon, qui a déclaré à la télévision israélienne Channel 13 « Nous sommes en faveur des négociations et d'un accord avec le Liban, mais nous voyons actuellement les Israéliens en train de mener des négociations sous la menace. » Et donc, la force de dissuasion du Hezbollah a forcé l'entité sioniste à négocier, ce dont jamais dans son histoire l'entité sioniste ne faisait. D'habitude, elle impose une guerre. Et la guerre, toujours, c'est une guerre qui est féroce, c'est-à-dire qu'elle utilise sa force aérienne, elle détruit de manière massive, et ensuite elle oblige la partie qu'elle a agressée d'aller aux négociations pour négocier selon les termes de l'entité sioniste. Alors que là, il n'y a pas eu encore de guerre, ce n'est qu'une force de dissuasion qui a été utilisée contre l'entité sioniste, et cette forme de dissuasion est tellement menaçante qu'elle a obligé l'entité sioniste de mener des négociations sous la menace de l'aveu justement des médias israéliens ou bien de l'ancien ambassadeur israélien aux Nations Unies, Danny Danon. Mais allons plus loin. Il y a un général de réserve israélien qui a déclaré, je crois, le 19 septembre, donc bien avant cette déclaration, qui a déclaré que le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, constitue la menace la plus importante pour l'institution militaire et sécuritaire israélienne. Et en fait, cet ancien commandant de la division de l'armée israélienne qui s'appelle a déclaré de télévision israélienne qu'il faut prendre très au sérieux Saïd Hassan Nasrallah. En général, il tient sa parole, vous ne comprendrez jamais ses intentions, mais cette personne, en général, sa nature et ses actions sont compatibles, voire similaires. Mm-hmm. Dans un contexte connexe, le commentateur des affaires palestiniennes de la télévision israélienne, Channel 12, a déclaré à propos du dernier discours de Saïd Hassan Nasrallah que les mots que nous avons entendus de Nasrallah ne sont pas nouveaux. Les discours que nous entendons du Hezbollah signifient qu'Israël a cédé. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, la société Energean, qui affirmait depuis 2 semaines qu'elle entamerait l'extraction du gaz en septembre, l'a reportée à octobre. Mmh. Voilà.
Merci pour vos explications. Restez en ligne, Madame Oubala. Alors, notre deuxième invité est Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Michel, est-ce que vous m'entendez ? Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, en ce qui concerne cette affaire, mais notamment le fait que l'Iran a annoncé qu'il est prêt à fournir du pétrole au Liban dans un contexte de tension entre le régime sioniste et le Liban en ce qui concerne l'affaire de Karish. D'un autre côté, les États-Unis avaient envoyé un médiateur afin de soi-disant apaiser les tensions, mais sans vraiment de conséquences concrètes. Comment interprétez-vous tout ceci, Monsieur Michel ?
Oui, tout d'abord, bonjour à votre invité. Il faut constater quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les grands principes de l'Occident sur la propriété privée, le respect du droit international, le respect des frontières de l'Occident en gaz ne sont plus du tout respectés. Et en particulier, actuellement, les États-Unis, sous prétexte d'être de la paix, autorisent les Israéliens à mener un véritable acte de piraterie internationale. Et une fois de plus, face à l'effondrement de l'État libanais, c'est le Hezbollah qui rétablit la défense de l'intégrité nationale.
Mmh. Et à votre avis, en fin de compte, à quoi devrait-on s'attendre dans cette affaire ? Est-ce qu'Israël poursuivra ses menaces, ses mises en garde ? Est-ce que cette coalition renforcée entre le Liban et l'Iran sera une réponse assez ferme, en fait, aux tentatives et aux menaces israéliennes menées contre l'acte de la résistance, mais là, notamment le Hezbollah libanais et le Liban en général ?
Les Israéliens se sont évidemment encouragés dans leur politique extrémiste. Ils voient que les Occidentaux le soutiennent tout à fait, puisque la position américaine est scandaleuse dans l'appel pour un soi-disant arbitre. Maintenant, évidemment, est-ce qu'Israël mesure bien les conséquences, c'est-à-dire risquer une guerre, risquer de voir les champs gaziers et le pétrolier israélien frappé dans l'Est, voilà, ça ça je n'en suis pas sûr. Mais aujourd'hui, évidemment, la communauté occidentale est tout à fait dépassée dans cette rétention. Elle croit qu'elle est encore sous l'empire de l'ancien ordre des choses, alors que le nouvel ordre mondial international qui existait avant tout, celui de la toute-puissance occidentale, n'existe plus.
Merci. Restez en ligne, Monsieur Michel. Madame Oubala, vous, à votre avis, à quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines à venir concernant cette affaire, surtout après cette rencontre entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue libanais, et le fait que voilà, l'Iran serait un partenaire assez important dans le domaine énergétique du Liban?
C'est pas le fait que l'Iran pourrait être un partenaire. Le Liban n'est pas nouveau, en ce sens que depuis le début de la crise économique, sociale et monétaire au Liban, qui a ajouté à cela une crise également au niveau de l'énergie, c'est-à-dire en fuel ou en essence. Bon, le secrétaire général de Hezbollah avait à plusieurs reprises mis en garde les États-Unis de ne point étouffer ou bien asphyxier les Libanais. Il comptait prendre des mesures prises quand il a véritablement demandé de l'aide, comme il le dit, à son allié l'Iran. Et donc il a pu transporter depuis la Syrie jusqu'à travers les frontières libanaises, entre guillemets illégitimes, du mazout afin que les Libanais puissent se réchauffer durant l'hiver. Bon, et à plusieurs reprises, il a lancé à l'État, au gouvernement, plusieurs appels, voire il a exhorté, d'aller conclure des négociations avec justement la partie iranienne, que les Iraniens sont prêts à offrir du pétrole et du gaz pour le Liban. Mais encore récemment, dans son dernier discours, ou avant-dernier je crois, il avait bien souligné que l'Iran était prêt à donner un don. Et en termes de relations internationales et de droit international public, un don n'est pas soumis à des sanctions. Donc c'est une manière, si vous voulez, de pouvoir dérouter les sanctions. Et donc un don, à ce moment-là, le gouvernement libanais a pris l'initiative en créant à travers le ministère de l'Énergie un comité purement technique, c'est-à-dire composé d'experts techniques qui s'est rendu en Iran afin justement d'étudier la question. Mais il ne faut pas oublier que toute cette initiative qui a été prise justement par le gouvernement libanais, je pense qu'elle n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas un feu vert de la part des États-Unis. Donc une volonté de la part des États-Unis de calmer, entre guillemets, la de ne pas exposer de cible. Donc, a toujours été dans les Libanais, pour ne pas dire pour tous les Libanais, puisque Dieu, il est divisé horizontalement, donc, un certain nombre de Libanais, l'Iran représente, oui, un partenaire fiable aux côtés de la Chine aussi, concernant pas seulement au niveau de la question de l'énergie, mais aussi au niveau de tout projet de reconstruction des infrastructures, ou voire le port de Beyrouth, etc. Donc je ne peux pas vous donner une réponse précise. Tout cela dépend en fait de la situation, comment la situation va évoluer, la situation géopolitique interne, évoluera au Liban, puisque nous avons là maintenant une échéance, l'échéance présidentielle. On n'a pas de gouvernement, donc également c'est une deuxième échéance. Donc on a deux échéances qui vont, bien entendu, décider comment sera le paysage politique au Liban. Et jusqu'à maintenant, il n'y a que des discours, des mots qui sont en train d'être exprimés, mais rien sur le terrain véritablement concret.
Merci pour vos explications. Merci, restez en ligne, s'il vous plaît. Monsieur Michel, En ce qui concerne la situation actuelle d'Israël, il semblerait que le régime sioniste est de plus en plus sous pression, d'une part par la Palestine occupée, cette résistance du peuple palestinien, d'un autre part, voilà, de ses agissements, de ses évolutions au Liban et ce rapprochement davantage, bien sûr, il y avait un rapprochement déjà avec l'Iran, mais ce rapprochement de plus avec l'Iran dans le domaine énergétique avec le Liban, d'un autre côté, ce qui se passe en ce moment en Syrie. Donc il semblerait que l'axe US-Israël est de plus en plus sous pression et en panique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci?
Écoutez, on a un peu l'impression que les Occidentaux ne mesurent pas les données stratégiques des problèmes auxquels ils sont confrontés. Ils traitent l'affaire comme si c'était uniquement d'un conflit local entre Israël et le Liban, alors qu'il s'agit d'un problème régional avec l'Iran. Et en particulier, les puissances occidentales sont tout à fait irresponsables. Ils comptent sur l'Iran pour cet hiver fournir du gaz et du pétrole, mais en même temps, ils braquent l'Iran. Ils attaquent son principal partenaire, qui est le Hezbollah. Et en même temps, il attaque sur la question de l'Iran. Il y a un autre domaine dans lequel la Bolivie est responsable. On ne peut pas vouloir prétendre dialoguer avec l'Iran. Et en même temps, comme ça se passe cette fois-ci, sur tous les plateaux de télévision, encourager la population iranienne à une révolution de couleur contre la République islamique. C'est donc une politique qui ne conduira à rien et qui conduira à des problèmes sans fin pour les Occidentaux. On a véritablement cette petite impression. Il y a une méconnaissance de véritable modèle géopolitique et géostratégique des problèmes auxquels l'Occident est confronté.
Merci pour vos explications. Et Madame Oubala, comme conclusion de ce débat et de ce que vous venez de dire, on vous écoute.
Malheureusement, votre invité, j'ai pas pu. Le son est très très mauvais. Donc malheureusement, je peux pas commenter ce qu'il a dit.
Oui, on s'excuse pour cette dégradation technique.
Oui. Donc si vous résumez, je sais pas si j'ai aucune idée à quoi vous répondre.
De votre point de vue, si vous voulez bien, en ce qui concerne en fait la situation dans laquelle se trouve le régime sioniste, comme le dit Monsieur Michel, cette situation qui se dégrade en fait en quelque sorte pour le régime sioniste avec toutes ces évolutions et ces progrès de l'acte de la résistance dans la région de part et d'autre.
Monsieur Michel a raison de dire que la situation du régime sioniste n'est pas brillante, pas seulement au niveau régional, parce que bon, nous avons le Hezbollah d'une part qui a renforcé son arsenal et qui a renforcé sa force de dissuasion au point que sa force de dissuasion a réussi à obliger donc l'autorité sioniste à faire des négociations, mais aussi l'axe de la résistance est renforcé puisque vous avez d'une part, il y a eu récemment le défilé militaire au Yémen avec de nouveaux missiles de longue portée, et donc ces missiles sont des missiles qui peuvent atteindre l'entité sioniste, ça c'est très important. Donc l'axe de résistance en tant que tel avec l'Iran, la Syrie, l'Irak et le Yémen est en train de se renforcer. Voir aussi au niveau intérieur, c'est-à-dire au niveau des factions de la résistance palestinienne également, ils se sont renforcés. Mais encore, au niveau de l'entité sioniste elle-même, c'est-à-dire il y a des rivalités de pouvoir au sein même de la maison sioniste entre les divers partis politiques israéliens. Ils ont également eux aussi, ils ont une échéance électorale. Et jusqu'à maintenant, il y a une certaine... on ne connaît pas quelle sera l'issue justement de cette échéance. Donc, au niveau interne, au niveau régional et au niveau international, l'entité sioniste n'est pas dans son meilleur moment. Ça, c'est certain. Et au niveau international, on sait très bien que, bon, vous avez les États-Unis qui sont aux prises avec une guerre non déclarée avec la Chine. Il y a d'un autre côté l'Union européenne qui est aux prises avec justement une guerre en Ukraine avec la Russie. Donc toute la situation mondiale au niveau des relations internationales est une situation qui est en train d'évoluer très très vite. Les événements sont très rapides et en même temps on ne peut pas tout de suite analyser ce qui risque de se passer. Donc, on ne peut pas, l'entité sioniste est laissée pour elle-même, pour l'instant, c'est-à-dire elle doit se débrouiller elle-même, mais aussi c'est le cas de tous les États, attention. C'est-à-dire que même le Liban, chacun est obligé de compter sur lui-même parce que, justement, la situation au Moyen-Orient est très fluctuante.
Merci à vous pour vos explications. Rada Obala, docteur en géopolitique à l'Université islamique du Liban. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, était avec nous pour ce débat. Nous avons évoqué le discours du Seyyed Hassan Nasrallah, mais également la situation générale entre le Liban, le Hezbollah et le régime sioniste. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette édition de débat. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Une vie, une œuvre.
Nader Naderpour est né le 6 juin 1929 à Téhéran et mort en 2000. Ses parents parlaient couramment le français et avait un profond amour pour l'art, la musique et l'histoire. Son père, Tari Mirza, était un descendant de Reza Roli Mirza, le fils aîné de Nader Shah. L'aîné de deux frères et trois sœurs, Naderpour a grandi sous la supervision et les soins de ses parents culturellement riches. Son père, décédé alors que Naderpour n'avait que 14 ans, était un peintre habile et aussi un homme familier avec la poésie et la littérature. C'est lui qui enseigna aux jeunes Naderpour la littérature persane et la poésie classique. Son père a également demandé à Naderpour de mémoriser la poésie classique et moderne. Sa mère était une joueuse talentueuse de l'instrument à cordes le goudron et l'a aidé Naderpour à développer une appréciation pour la musique. En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, Naderpour entre au lycée Iran Shahr à Téhéran. Un an plus tard, lorsque l'Iran est occupé par les forces militaires alliées, Naderpour, comme de nombreux autres étudiants de l'époque, s'implique dans la politique et participe à un petit groupe de partis nationalistes. Plus tard, il a rejoint le Parti Toudé d'Iran, qui est devenu le principal parti communiste du pays. Naderpour publie ses premiers poèmes dans les années 1940 et complète quatre recueils dans les années 1970. En 1950, Naderpour a été envoyé à Paris pour poursuivre ses études en langue et littérature française à l'université de la Sorbonne. En 1960, Naderpour a organisé la première lecture de poésie persane moderniste à Téhéran. En 1964, Naderpour voyage en Europe, à Rome. Il poursuit ses études de langue et littérature italienne. Il a également passé quelques temps à Paris, étudiant le cinéma français et consacrant du temps à sa propre poésie. En 1968, Naderpour devient l'un des 30 membres fondateurs de la première association des écrivains d'Iran. Plus tard, en 1977, il décide de ne pas participer au rajeunissement de l'association en raison de divergences d'opinion. En 1987, il s'installe en Californie. Il est décédé d'une crise cardiaque en 2000. Peu de temps après la mort de Naderpour, sa veuve, Jaleh Basiri, a créé la Fondation Naderpour. L'objectif de la Fondation Naderpour est de promouvoir des études interculturelles et des approches comparatives de la tradition littéraire Est-Ouest en se concentrant sur l'héritage du poète décédé. Naderpour a été considéré comme le premier poète iranien qui a ouvert des perspectives passionnantes de la nouvelle poésie persane, et il a été considéré comme l'un des leaders du mouvement pour la nouvelle poésie, ou Shereno en Iran, et aussi en Afghanistan, au Tadjikistan et au Pakistan. Naderpour est bien connu pour ses recherches approfondies sur la poésie iranienne contemporaine, ainsi que pour ses analyses approfondies et perspicaces des poètes iraniens, Hafez, Ferdowsi, Omar Khayyam, Molavi et autres. En outre, il est reconnu pour ses commentaires perspicaces sur l'histoire récente de l'Iran et ses observations astucieuses sur les défis culturels et politiques des Iraniens. Les poèmes composés par Naderpour sont riches en images et profondément ancrés dans la texture de la langue persane. Naderpour était à la fois un imagiste et un forgeron de mots. Et il était finalement un poète classique, vivant dans un monde moderne, dans un style moderne. Il a également publié un grand nombre d'articles universitaires et de recherches sur la politique, la culture, l'histoire et la littérature de l'Iran dans diverses revues et magazines imprimés tels que Iran Shenasi, Mehregan, Sohan et Rahovard, ainsi que dans de nombreuses revues en ligne. Voici maintenant quelques poèmes de Nader Naderpour. Goliath, fleur de glace. Flambante, les fleurs et les broussailles ont pris des couleurs de sang. La démence, ma nuit d'étoiles, laisse que j'entaille ma veine malade. Car le printemps y est mort et l'automne y est sans voix. L'arbre mouillé qui était mon cœur était couvert de fleurs de sang. La fièvre vive de l'amour la consumait, ébranlée dans son tronc et son feuillage. Une soif fleurit en lui qui lui donna sa chlorophylle, et dans les étincelles du vent, ses fleurs s'enflammèrent au printemps. Que faire ? Le printemps est mort et la brûlure du froid est là. Le goliath goûte sur moi comme la rosée matinale. Viens ici, toi qui flamboies comme le vêtement du vin. Brûle, ô fièvre du zénith, coréen ciel de printemps. Nectar. Comment dites-vous ? Du miel ? Du miel, ce bleu des grains sucrés dans les grappes de raisin ? Des larmes, c'est le d'un jardinier, vieux, fatigué, qui a battu les chemins, veillé la nuit jusqu'à l'aube, fait boire les vignes, illuminé l'intérieur de chaque grain de ses larmes, ramifié chaque support, comme deux tresses de cheveux, nourrit jusqu'à l'excellence chaque grappe avec son sang. Comment dites-vous ? Nectar ? Nectar, ce bleu des grains sucrés dans les grappes de raisin, du sang, celui du jardinier, vieux, fatigué. N'en prenez pas à la légère, n'en buvez pas si facilement. Et vous de même, consommateur de mon verbe, si dans ces grains délicats ou dans son bout qui est transparent vous trouvez du vin, du miel, ça n'est autre que mes larmes, ça n'est autre que mon sang. Nectar, dites-vous, des larmes, du sang. Téhéran et moi, à leur heure, sous le dard improviste du soleil, Téhéran prend feu comme les langues sèches et trempées des feuilles. Elle prend comme un vieux ver, suspendu dans la poussière des fils d'un cocon de soie, un mal indéchiffrable au cœur. Pareil à ce vieux ver, je défaille dans un cocon fait de la soie de l'illusion. Le cœur embrasé par le feu d'un poème indéchiffrable.
Thank you.